Vous êtes française ou français et vous résidez à l'étranger? Les élections européennes arrivent à grands pas. Rendez-vous le dimanche 9 juin pour élire les représentants français au Parlement européen. Ou le samedi 8 juin si vous résidez sur le continent américain ou dans les Caraïbes. Bon vote! Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit.
Une île face au continent, petite île sans doute de beauté, évidemment, la Corse n'est jamais à l'écart des préoccupations. Ces préoccupations, elles sont là au XVIIIe siècle, avec les révolutions corses observées dans toute l'Europe quand Pascal Paoli dote l'île d'une constitution. La Corse est encore au centre de l'attention quand apparaît celui qui bouleverse le monde, Napoléon. Enfant d'Ajaccio. La Corse l'est encore durant tout le 19e siècle avec la figure, un tantinet pittoresque du bandit corse, du bandit d'honneur. Et la Corse l'est toujours par les revendications. Comment faut-il les qualifier? Régionalistes, autonomistes, indépendantistes? Les métamorphoses du nationalisme corse.
Alors pourquoi les Corses? Est-ce qu'il y a un particularisme?
La Corse, c'est un de ces endroits du monde qui a du caractère.
Nous voulons tout simplement un statut d'autonomie interne au sein de la République française.
Un mouvement composé de militants résolus et dont la jeunesse, la grande majorité, se déclare prête à ne reculer devant aucun moyen pour la renaissance de l'île.
Coup sur coup, des explosions en chaîne ont secoué la Corse, cette île, ce département à la mer, ce département à part.
Partout, les charges explosives étaient assez importantes, causant de sérieux dégâts aux bâtiments touchés.
Celle que l'on appelle l'île de beauté et donc aussi l'île de la colère.
Jean-Paul Pellegrinetti, bonjour.
Bonjour.
Nous parlons du nationalisme corse. Pour qu'il y ait nationalisme, il faut qu'il y ait l'idée de nation. C'est quelque chose du XVIIIe siècle, ça, pour la Corse?
Alors, en tout cas, c'est quelque chose qui apparaît évidemment au XVIIIe siècle. En fait, avec, vous avez dû certainement l'évoquer dans les émissions précédentes, au moment de Pascal Paoli, c'est quelque chose qui revient au XIXe siècle avec la montée des régionalistes dans une Corse qui voit progressivement s'enraciner la République, mais une Corse qui est traversée par de graves difficultés, des difficultés économiques, avec une grave crise agricole. Et la Corse est essentiellement agro-pastoral, donc c'est tout son vignoble qui est phylloxéré, sa céréiculture qui ne peut plus faire face à la concurrence des blés étrangers et toute sa production d'oliculture, laitière en fait, qui sont évidemment fortement touchées par des manques de débouchés. Et donc dans cette crise économique naît une véritable crise aussi sociale avec le besoin, la nécessité pour les plus pauvres d'immigrer vers une situation professionnelle plus stable. Donc l'immigration devient une échappatoire à la misère. Et puis une crise politique avec une dénonciation de ce qu'est la République, l'État français, de la part de soit des bonapartistes qui ont combattu les républicains, mais également la montée de régionalistes.
Oui, crise économique, crise politique et puis ces identités nationales pour la Corse correspondent à ce qui se passe un peu partout en Europe durant tout le 19e siècle et à cette construction des identités nationales. La Corse n'y échappe pas.
Complètement. On est complètement en fait dans ce courant de pensée en fait. En tout cas pour la France, si l'on compare avec d'autres régions, c'est la nécessité, c'est ce courant en fait de droite radicale également qui tape sur la République, qui tape sur la laïcisation. Donc on va défendre évidemment la religion. Et puis on défend toute cette notion d'identité, notamment d'identité corse. Au moment où se construit en France l'État-nation, avec une nation, une langue, un peuple, une histoire, en fait, eh bien, on oppose un peu la même chose. La nation corse, l'histoire de la Corse, le peuple corse, et la langue, qui est la langue corse. Et là, je dirais que en cette fin du 19e siècle, en fait, eh bien, la langue corse devient l'un des premiers vecteurs de cette identité, de cette culture corse.
Thierry Dominici, vous êtes maître de conférence en sciences politiques à l'Université de Bordeaux. Dans cette histoire corse, nous l'évoquons, l'identité corse, l'identité avec la langue, l'identité avec une histoire également. Cette histoire-là corse est-elle spécifique? Je veux vous poser la question parce que quand on dit que dans toute l'Europe, au même moment, on va avoir des mouvements d'identité nationale, est-ce qu'on va retrouver dans le cas de la Corse quelque chose de très particulier? Et ce que nous disait Jean-Paul Pellegrinetti, c'est qu'il y a vraiment tous ces facteurs à mettre en relation l'économie, le politique et donc l'identité.
Oui, d'ailleurs, je serais tenté de soulever une sorte de paradoxe, parce que Jean-Paul est parti de la question de la nation, et il a raison, au XVIIIe siècle, donc, on l'a vu hier dans votre émission, est née la nation corse. D'ailleurs, c'est très clair dans le préambule hein, de 1755, on parle de félicité de la nation, c'est-à-dire qu'on passe de peuple ou de peuplement à nation. Et ce qui est étrange, si vous voulez, dans l'idée de la revendication des régionalismes, alors qu'on a tous les ingrédients pour revendiquer un retour, finalement, à cette souveraineté corse, c'est-à-dire en gros comme si le pacte était un petit peu, je dirais, distendu entre la République et l'ex-nation corse qui voudrait redevenir une nation. Au lieu d'avoir un discours sur la nation corse, on a, comme l'a expliqué Jean-Paul, un discours plutôt autour de la tradition et puis très vite la langue. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que ce qui est assez étonnant, c'est-à-dire que c'est la seule région d'Europe qui peut se revendiquer et se targuer d'une nation. Elle a été d'ailleurs à l'origine des révoltes, comme dirait Chateaubriand. Elle était en gros l'école maternelle ou l'école primaire des révoltes et des révolutions. Et au final, la nation vient après, comme on le verra, je pense, dans le cours de l'émission.
Oui, c'est vraiment en parler hein, de cette construction-là. Jean-Paul Pellegrinetti, vous êtes professeur en histoire contemporaine à l'Université Côte d'Azur. Et ici, nous avons dans le cas de la Corse quelque chose de particulier. La Corse a été, dans sa volonté, en tout cas dans sa représentation indépendante, ça a été, alors plein de choses, la Corse, hein, un royaume, une république. Il y a l'idée qu'il existe une souveraineté corse.
Oui, tout à fait. Et cette idée-là, en fait, eh bien, on va la retrouver à la fin du 19e dans un journal qui s'appelle La Tramontane, qui est le nom d'un vent, en fait. Le journal porte le nom de La Tramontane, Fresca et Sane, fraîche et saine, en fait. C'est un journal qui naît en 1896 sur des presses bonapartistes à Ajaccio. Mais c'est un journal donc qui est mené par Pierre Toussaint Casanova, dit Santo Casanova, qui est né sous le Second Empire en 1850 dans une région autour de Vico, en fait, à Salitch plus précisément, et c'est un journal qui va faire justement en fait de toutes ces revendications son véritable fer de lance et qui va placer dans un premier temps, c'est le premier journal en langue corse, puisque le corse est parlé mais n'est pas écrit. Donc là, on défend cette langue. Et puis, autour du journal, vont se construire toutes des thématiques, en fait, du sang, de la race, de l'instinct, de cette notion de peuple corse. Et puis, progressivement, on va parler de l'autonomie, on va même parler de séparatisme. Donc, tous les ingrédients, je dirais, toutes les grandes thématiques qui seront reprises dans l'entre-deux-guerres, et puis nous le verrons, qui seront reprises dans les années 60, 70, en fait, sont déjà inscrites dans ces grandes thématiques qui apparaissent à la fin du 19e, avec la grande thématique, c'est évidemment cette thématique de l'île oubliée, en fait. Et pendant, et je crois que ça c'est un aspect, si nous devions retenir quelque chose de cette histoire de la Corse, c'est véritablement la thématique de la pauvreté, l'attente de la modernité. Et cette attente de la modernité, elle sera excessivement longue. Il y a un peu de modernité qui est injectée, je dirais, le début, c'est le Second Empire, mais la véritable attente, elle se fait tout au long du 19e, tout au long du 20e, jusqu'au plan exceptionnel d'investissement en 2002, qui là amène véritablement des fonds pour relever, redresser la Corse, et ce qu'attendent toutes ces différentes générations, en fait, que nous voyons évidemment évoluer à travers la fin du 19e, l'entre-deux-guerres, et puis le 20e siècle, en fait.
Eh bien, installons-nous le 13 novembre 1898 à Ajaccio, parce que c'est là qu'est publié ce journal, La Tramontagne, et nous le lisons.
Nous, les descendants et admirateurs du grand patriote Paoli, nous réclamons notre indépendance, notre autonomie. Nous sommes Corses avant tout et nous voulons notre liberté. Quand nous nous serons mis en tête que nous faisons venir inutilement du continent tout ce qui est nécessaire à l'alimentation, quand nous serons bien convaincus de cette idée que le fonctionnarisme porte notre peuple à la ruine et qu'il est plus lucratif de travailler ses terres en toute indépendance que de servir comme les derniers esclaves d'une quelconque administration, alors la Corse sera libre. La Corse sera riche. L'autonomie de l'île sera proclamée et nous ne serons plus les esclaves d'aucune nation. Nous sommes Corses et nous voulons vivre libres et sans chaîne. «
Thomas Beau qui nous lisait cet extrait de la Tramontagne à Tramontana en 1898. Jean-Paul Pellegrinetti, ici nous avons plein d'éléments bien sûr, et au-delà de l'identité qui passe par la langue corse, on a des revendications. Il y a ces mots complexes, hein, d'indépendance, d'autonomie, qui ne veulent pas dire la même chose mais qui sont pourtant ici associés, avec l'idée que la pauvreté de la Corse s'explique par son statut. C'est bien comme ça qu'il faut le comprendre ?
C'est un peu ça, en fait. Il y a beaucoup de choses, en fait. Il y a beaucoup de choses. Ça, c'est là, c'est véritablement le fer de lance, c'est la dénonciation. Je crois que au départ, en fait, il y a cette situation, comme je vous le disais, économique. Ensuite, il y a une situation politique. Il y a la République qui s'installe, et donc évidemment, on la combat. Parce que dans cet extrait que vous nous avez diffusé, si ma mémoire est bonne, il y a aussi un élément important qui est celui du fonctionnarisme, en fait, où là, l'État, donc les Français, développent en Corse une forme de fonctionnarisme qui fait que les forces vives, eh bien, sont aspirées vers l'extérieur. Certaines sont même remplacées par une forme d'étrangers, en fait, et progressivement le journal, si vous voulez, s'installe dans un courant que l'on va retrouver ailleurs, en fait, en dénonçant ce mal français qui est dû à la République. On dénonce la législation, on dénonce, et donc de fait on s'installe dans une défense de la religion, mais on dérive progressivement vers des formes de xénophobie à l'encontre, alors là, c'est de l'italien, qui est l'étranger, une forme d'antisémitisme aussi, et d'anti-maçonnisme. Et il n'est pas... je pense qu'il est important aussi de rajouter que l'un des journalistes aussi qui contribue, et Jean-Baptiste Marcadge, qui est au même moment journaliste à la Libre Parole d'Édouard Drumont, qui était, comme vous le savez, en fait, député d'Alger à la fin du 19e, début 20e, en fait, et qui... est un journaliste qui s'est évidemment député, qui Drumont s'est illustré dans ce combat antisémite, en fait. Donc on est véritablement dans ce tissu là, en fait, oui,
dans la précision d'ailleurs à apporter ici, vous nous dites bien, Jean-Paul Pellegrinetti, qu'il y a une opposition à la République, mais faut quand même souligner que sous le Second Empire la Corse n'était pas favorisée plus que ça. Il y a de ça qui est intéressant aussi, c'est lié au régime politique sans doute de la République, la Corse et la République. C'est l'ouvrage que vous avez coécrit avec Angelo Verré. Mais sous le Second Empire, c'était pas non plus exceptionnel. Il y a ce paradoxe corse aussi, le souvenir du bonapartisme. Mais bon, le bonapartisme n'a jamais vraiment favorisé la Corse.
Alors, le bonapartisme, oui, parce qu'il y a quand même, de grands chantiers qui sont lancés, en fait. À l'image de ce qui se fait au niveau national, vous avez des adductions en eau, vous avez également des fortifications, des ports. Il y a une certaine modernité, en fait, qui est lancée lors du Second Empire et avec Napoléon III, en fait. C'est véritablement le début, je dirais, de cette modernité qui est lancée. Et si on se remémore évidemment ce qu'a apporté et le projet, par exemple, du chemin de fer, qui sera repris par la Troisième République, c'est un projet qui date du Second Empire. Donc il y a de véritables progrès, malgré tout, qui sont menés par ce Second Empire, que l'on redécouvre et que nous a fait évidemment redécouvrir notre collègue et ami Éric Anceau, en fait, à une échelle plus large. Mais on a ces effets-là en Corse, en fait. Le combat de la fin du 19e siècle, il est véritablement tourné vers cette République. Et n'oublions pas, je vous l'ai dit, en fait, la Tramontane, elle est aussi publiée sur les presses, elle est très proche des bonapartistes, en fait. Donc, ce sont des combats, pour les bonapartistes, c'est un peu des combats d'arrière-garde. On sent que la situation, évidemment, est quasiment perdue. Alors que là, pour les régionalistes, il y a le besoin de dénoncer véritablement la situation dans laquelle se retrouve la Corse. On est dans cette question corse qui revient sans cesse, et qui fait souvent la une de toutes sortes de médias, en fait.
Oui, parce que ça interroge énormément, Thierry Dominici. D'ailleurs, nous parlons du nationalisme corse, de la volonté d'indépendance, de la volonté d'autonomie, mais c'est difficile de parler de l'ensemble d'une population d'une seule voix. En fait, il y a énormément de courants différents en Corse.
Oui, il y a différents courants en Corse. Jean-Paul est en train de parler donc d'un courant bien précis qui va se prénommer le corsisme, en fait. Donc c'est le premier courant qui démarre donc avec cette revue, mais qui va se véritablement se focaliser sur le politique. Alors il sera plus ou moins, je dirais, ralenti par la Première Guerre mondiale, mais c'est avec les bulletins de la Cypre, qui est le premier journal, si vous voulez, nationaliste, pour ne pas dire indépendantiste. Parce que vous l'avez noté vous-même tout à l'heure, dans le bulletin de Tramontane, on parle d'indépendance et d'autonomie. On mélange les deux termes. En fait, l'idée ici, c'est l'émancipation. La proposition qui est faite, en fait, dans ces premiers bulletins, c'est de parler d'émancipation d'un peuple, comme l'a dit mon collègue, délaissé. Alors là où je suis un peu moins d'accord sur ce phénomène, c'est que la plupart des... pas le cas de Jean-Paul, bien sûr, mais la plupart des spécialistes quand ils travaillent sur ces questions se focalisent sur l'idée que ces mouvements vont glisser dans, je dirais, quelque chose de fascistoïde, proche des mouvements d'ultra-droite de l'époque, etc. C'est un fait, hein. D'ailleurs, Francis Azarlier l'a bien expliqué dans son bouquin « Les perdants ». C'est-à-dire que c'est vrai que ces mouvances, comme le corsisme en Corse, ou le mouvement breton, ou le mouvement même le Fine Gael en Irlande, vont aller vers ces mouvements, je dirais, fascistoïdes, en passant des... je dirais... en espérant avoir autre chose que ce que propose la démocratie libérale naissante. Mais au final, si vous voulez, ce qui est intéressant de voir, c'est que la Corse réagit d'un point de vue identitaire, non pas parce que elle ne se sent plus Corse, donc c'est pas la revendication d'une nation, c'est la mobilisation de certains intellectuels face à une situation économique et une incapacité ou une impossibilité, je dirais, des élites locales de rentrer dans l'homogénéisation de l'État qui est proposée par l'État à l'époque. Donc en fait, on est dans une crise économico-politique. Ce qui fait que à ce moment-là, ces mouvements vont mettre le doigt sur les dysfonctionnements, un peu comme aujourd'hui, certains partis, je dirais, si je peux me permettre, populistes, mais au sens de « je parle au nom du peuple ». Et donc finalement, il y a véritablement, d'un point de vue de la périodisation, puisque tout à l'heure on parlait de périodisation, donc on pourrait faire référence à Monsieur Emmanuel Leroy-Ladurie, qui a essayé de le faire lui aussi pour tous les régionalismes français. Il y a cette période en France où certaines régions sont dans l'incapacité, et c'est encore plus vrai pour la Corse, d'adhérer ou de rentrer dans la modernité, et donc de passer à l'homogénéisation, à accepter l'homogénéisation, je dirais, administrative sur l'ensemble du territoire. Non seulement c'est compliqué pour la Corse, mais Jean-Paul le montre très bien dans ses travaux aussi, c'est que il y a un problème aussi de langue, c'est-à-dire que la plupart des insulaires ne parlent pas la langue, je dirais, de l'administration qui lui est imposée. Donc voilà, donc il y a une vraie périodisation où on a un mouvement très puissant qui va apparaître en 1914, c'est porté par à Chypre, donc qui était le nom du fusil de l'armée paolienne, et donc au final, un fusil à silex, et donc au final, la guerre va stopper, si je puis dire, cet élan, et va réapparaître plus tard un mouvement porté par un autre donc journal, un bulletin que Jean-Paul parlera mieux que donc Jean-Paul parlera mieux que moi, c'est un Mouvre, le Mouflon, et donc ce mouvement va donner naissance à un parti politique, le parti Corse d'Action, et je tiens à souligner le mot Azione parce que ça fait référence aux autres cas, c'est-à-dire que parti Corse d'Action, en gros, c'est une sorte de d'écho au parti Sarde d'Action ou et il y a d'autres partis d'Action bretons par exemple sur le territoire européen. Donc on est véritablement dans une logique où, vu qu'il n'y a pas de marxisme en fait à ce moment-là, c'est vrai qu'on va chercher des idéologies autres pour dénoncer cette, allez, on va encore l'appeler comme ça, cette démocratie libérale naissante.
Jean-Paul Pellegrinetti.
Oui, tout à fait. Je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire évidemment Thierry. Je rajouterais, puisqu'il insistait sur cet état dit l'abandonné, en fait, il y a un rapport, Clémenceau, qui est alors président du Conseil et ministre intérieur, qu'il adresse à Armand Falière, qui était président de la République, et nous sommes en 1908. Et dans ce rapport, en fait, on a l'état de détresse générale dans lequel est véritablement plongé le département de la Corse. Et dans des domaines qui soient à la fois économiques, administratifs et financiers. Et il est dit dans ce rapport à quel point, en fait, la pauvreté du pays est extrême. Et on compare même en disant, mais ni la Bretagne, ni les Hautes-Alpes, ni aucun pays d'Europe ne se trouve en fait dans un état, ne peut donner une idée de telle misère et de tel dénuement actuel que dans lequel se trouve la Corse. Et donc il faut agir en fait, hein, il faut agir. Et des fonds seront votés justement en fait pour essayer de redresser cette situation qui est donc de fait mise en lumière par ces oppositions et par notamment par ces régionalistes et comme vous le savez en fait la guerre éclate et cet argent eh bien ne va pas prendre le chemin de la Corse mais va se diriger vers le front en fait
avec cette image d'une Corse plus pauvre que les autres régions de France, cette image-là qui se double d'une mythologie corse auquel participent Colomba et son frère.
Nos voyageurs n'étaient plus qu'à une petite distance de Pietranere. Lorsque, à l'entrée d'une gorge qu'il fallait traverser, ils découvrirent 7 ou 8 hommes armés de fusils, les uns assis sur des pierres, les autres couchés sur l'herbe, quelques-uns debout et semblant faire le guet. Leurs chevaux paissaient à peu de distance. Colomba les examina un instant avec une lunette d'approche qu'elle tira d'une des grandes poches de cuir que tous les Corses portent en voyage.
Ce sont nos gens.
Quels gens ?
Nos bergers. Avant-hier soir, j'ai fait partir Pieruccio afin qu'il réunisse ses braves gens pour vous accompagner à votre maison. Il ne convient pas que vous entriez à Pietranera sans escorte. Et vous devez savoir, d'ailleurs, que les Baricini sont capables de tout.
Je ne me donnerai certainement pas le ridicule de rentrer chez moi avec cette troupe de fainéants. Et je suis très mécontent que tu les aies rassemblés sans m'en prévenir.
Mon frère, vous avez oublié votre pays. C'est à moi qu'il appartient de vous garder lorsque votre imprudence vous expose.
Colomba, la nouvelle de Prosper Mérimée en 1840, adaptée par Aimé Dupuis en 1955, avec ici Jean-Paul Pellegrinetti, une autre image qu'il faut quand même mettre en avant dans cette réflexion sur l'état de la Corse, une Corse appauvrie, et puis cet imaginaire qui est lié au bandit, le bandit d'honneur, la vendetta, quelque chose qui contribue à renforcer à la fois l'identité corse et l'image que l'on a depuis l'extérieur de la Corse.
Tout à fait. Et une image qui est même renforcée, je dirais, par les élites, certaines élites, y compris politiques corses, en fait, hein, parce que Emmanuel Arène, l'homme qui deviendra le roi de la République en Corse, puisqu'il était à même de faire nommer aussi bien un préfet qu'un garde champêtre, son plaisir aussi, c'est de faire rencontrer à des élites du continent, de leur faire rencontrer de ces fameux bandits, en fait, corses. Mais cette violence, elle est présente, en fait, dans la société. C'est une violence que l'on retrouve à tous les degrés, tous les niveaux. Il y a une violence politique. Je rappelle que milieu 19e, on est à 600 bandits dans le maquis, donc des gens qui ont pris à la suite d'histoires politiques, ce qui est considérable. Et puis il y a toutes sortes de bandits. Tous ne sont pas d'honneur, en fait. Hein. Tous sont loin d'être des bandits d'honneur. Il suffit de lire la presse du 19e, où l'on voit en fait tous ces comptes rendus d'assises. Et là, je renvoie vers tous les travaux de Corbin, en fait. Et on mesure à quel point il y a une extrême violence sociale qui est liée aussi à la misère et donc belles études qui pourraient être menées. Et ce que je dirais, c'est que, et puis vous avez la lutte entre ces fameuses vendettes et entre les familles en fait, qui se soldent à la fin par des traités de paix, mais qui occasionnent de nombreux morts. Hein. On l'a entendu dans l'extrait en fait. Et ça, je dirais que ça renforce évidemment toute cette image. Pour ce qui est des vendettes et des traités de paix, c'est paradoxalement la guerre de 14 qui met un frein, quasiment un terme à ces différentes vendettes entre les familles parce que la violence à laquelle seront soumises les Corses en 14 en fait est tellement extrême. Je parle des premières lignes hein, puisqu'ils vont se retrouver majoritairement première ligne, et donc cela mettra un terme à tout cela en fait. Pour autant, la violence, malgré tout, continuera, mais sous une autre forme.
Thierry Dominici, sur cette idée de violence liée à cet imaginaire du brigand corse et de la vendetta.
Alors en fait, si vous voulez, j'ai beaucoup travaillé sur cette question, et notamment avec ma collègue Marie Peretti Nguyen. On a travaillé sur ce que, d'ailleurs, c'est ce qu'elle appelle la violence genrée, pour le cas, je dirais, actuel. Et donc il est vrai que dans l'imaginaire collectif des Corses, mais aussi dans l'imaginaire collectif des nationaux, il y a ce phénomène qui est totalement imbriqué à l'identité. Vous avez parlé tout à l'heure de la beauté de l'île, mais même pour Abel Gance, le cinéaste et réalisateur, la beauté de l'île passe bien sûr par Napoléon, etc., mais aussi par les bandits d'honneur, pour faire un petit clin d'œil à ce qu'a dit Jean-Paul il y a deux secondes. Même Abel Gance a eu droit à rencontrer le bandit d'honneur de l'époque. Je crois que c'était Sampa, si je me rappelle bien. Mais l'idée de bandit d'honneur, ce qui est assez intéressante maintenant pour le cadre de la, je dirais, dans le cadre de la revendication nationaliste ou nationalitaire, c'est qu'il devient, si vous voulez, on passe du cadre bandit d'honneur, comme vous venez de le définir, à bandit social. C'est-à-dire, là, je fais référence à l'historien Eric Hofboon, où là, on est en gros, si vous voulez, si je vulgarise pour les auditeurs, on passe à l'idée de Robin des Bois, de Dick Turpin, de Zorro, pour les plus jeunes, de Batman. C'est-à-dire qu'ici, à ce moment-là, on passe de bandit d'honneur à bandit social, celui donc qui va combattre pour le bien du peuple, pour le bien de la société. Et c'est d'ailleurs ce que va faire plus tard le FLNC. Il va jouer sur cette, je dirais, logique de bandit social, c'est-à-dire celui qui lutte contre la spéculation immobilière, celui qui dénonce les effets de la mafia, celui qui protège les petites gens, et bien sûr celui qui incarne, je dirais, les insulaires. Et donc cette idée de bandit d'honneur, finalement, c'est assez rigolo, si je puis dire, excusez-moi pour l'expression, mais finalement elle nous vient de la littérature, comme vous venez de le souligner, du 19e et début 20e, parce qu'il y en a d'autres, hein. Même Balzac fait une superbe nouvelle Vendetta, où il met en situation Napoléon Ier et ses problèmes de bandit d'honneur. Mais on est très loin de l'idée de vendetta, en termes de réalité, que se fait la romanesque. Parce qu'au final, on n'est pas en Albanie, c'est pas œil pour œil, dent pour dent. Hein, ça, c'est des logiques autres. Comme l'a expliqué Jean-Paul, on est dans des logiques de régulation par la violence. Et ce phénomène, vous l'avez peut-être démontré, je pense, lors des émissions précédentes, mais c'est un peu Gênes qu'il a imposé aux insulaires. C'est-à-dire que ce mécanisme-là de régulation par la violence est totalement ancré dans l'imaginaire des insulaires. Mais à cela s'ajoute Mérimée. Par exemple, Colomba. Je suis tenté de vous dire que Colomba n'a de réalité que dans l'esprit de Mérimée. Alors certains vous disent même, pour la légende, qu'il était amoureux d'une certaine Colomba, il a rentré dans cette longue nouvelle. Mais techniquement, le phénomène de violence vendettaire n'est pas du tout lié aux femmes. Bien que, elles ont participé à ces phénomènes-là. Mais pour revenir à cette idée de bandit d'honneur, finalement, à partir de 1976, si je puis dire, je fais un bond dans le temps, excusez-moi, mais à partir de 1976, quand des gens décident de mettre une cagoule et de se retrouver dans la forêt, donc ce culte de la forêt qui va jusqu'à Taureau, avec, comme vous le savez, David Taureau, et donc sa petite cabane qui va créer au fin fond du Montana et qui va créer la désobéissance civile, ils sont dans ces logiques, donc, si vous voulez, de retour à la terre, de liberté, comme Hans Junger les appelle les rebelles de la forêt, donc. Et donc, on est dans une logique de liberté et de bandit social. Donc, voilà. Je pense que, voilà, nous, sociologiquement, en sciences politiques, si vous voulez, on a eu un vrai problème avec ça. C'est que bandit d'honneur, ça a du sens, peut-être pour les médias à l'époque, au niveau, je dirais, du petit journal, etc. Mais pour les Corses, c'est plus du bandit social. Et c'est en ce sens qu'il a de l'honneur.
Ouais, il a de l'honneur, ce bandit, avec cette idée qu'il est mis en marche par un affront familial, Jean-Paul Pellegrinetti.
Oui, je voulais juste, ça me fait penser à cette histoire au moment où se construit le chemin de fer, la ligne entre Bastia et Ajaccio. Et qu'elle traverse la montagne le col de Vizzavone, qui est la frontière naturelle entre la Haute Corse et la Corse du Sud. Vous avez un bandit, vous avez les frères Jacques et Antoine Bonnet, qui sont dans le petit village de Bocognan, en fait. Et au moment où on construit, on a de nombreux vols, en fait, sur le chantier. Et on fait appel aux bandits pour protéger une partie du chemin de fer, des travaux de chemin de fer. Et donc, il y a une pancarte qui dit « propriété privée, propriété des Bellacoche, ne pas toucher ». Sinon, point de suspension, en fait. Donc, c'est cette utilisation aussi de ces bandits. François Coty fera de même lors d'une élection municipale à Ajaccio, où il utilisera le bandit Romanetti pour faire pression aussi sur les grands électeurs, ou sur les électeurs tout court, en fait.
Le bandit. présent dans l'imaginaire corse. On ne peut pas le séparer de l'imaginaire corse, ou en tout cas l'imaginaire que nous pouvons avoir sur la Corse, avec, quand il est question de la chanson, un autre imaginaire qui nous conduit directement jusqu'à Tino Rossi.
Là-bas, près des côtes de France, sur la mer immense, au ciel du midi, il est un vrai coin de paradis que je chéris. Île d'amour, pays où j'ai vu le jour. J'aime tes frais rivages et ton maquis sauvage. J'ai vu des lieux enchanteurs, pourtant de mon corps, je t'appartiens toujours, toujours. Ô Corse, île d'amour.
Tino Rossi, ô Corse, île d'amour, dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Thomas Beau, avec aujourd'hui à la technique Alex Dang, et merci à Stéphane Casalonga en Corse, merci France Bleu, et à Vincent Thierry à Bordeaux, merci encore France Bleu. Aujourd'hui, nous réfléchissons aux métamorphoses du nationalisme corse. Jean-Paul Pellegrinetti, nous l'avons bien entendu, à cette fin du 19e siècle, il y a un mouvement en Corse qui s'approche de ce que l'on peut connaître sur le continent, en France, avec des mouvements un peu antisémites, un peu d'extrême droite, comme on dirait aujourd'hui. La Première Guerre mondiale est une rupture. Que se passe-t-il après la Première Guerre mondiale? Ça a été évoqué parce que, dans le même moment, juste à côté, chez le voisin italien, le fascisme monte.
Eh bien, au lendemain de la Première Guerre mondiale, en fait, la situation économique que nous décrivions pour la fin du 19e est toujours la même, c'est-à-dire difficulté de toutes les différentes structures économiques, maintien de ces rapports clientélaires et d'échanges, en fait, que l'on pouvait noter déjà dans la Corse d'avant 14, déficit démographique parce que la Corse paye un prix très lourd aussi à la Première Guerre mondiale. Elle est parmi les départements qui ont le plus donné. On est autour de 11 000 morts, 25 000 blessés pour 58 000 et quelques mobilisés, en fait. Et donc, le traumatisme de la Grande Guerre va véritablement provoquer une crise une prise de conscience, je dirais, de la dépendance vis-à-vis de l'extérieur. Et ce manque tant réclamé, je dirais, d'une véritable modernité, et va prendre aussi, je dirais, va véritablement provoquer cette prise de conscience de l'archaïsme dans laquelle se trouve toujours la Corse, malgré le prix du sang versé en 14, malgré le prix du sang versé aussi tout au long de son histoire sur les différents champs de bataille, en fait. Et donc, c'est dans ce contexte que naît un nouveau journal à Mouvres, le Mouflon, hein, il est créé à Paris en 1920, 1er septembre 1920. Alors il est créé par justement des anciens combattants qui étaient même décorés, qui étaient officiers, hein, décorés blessés au feu. Ce sont les frères Pierre et Mathieu Roque, Petru Roque notamment, qui sera le chef de file de ce mouvement. Il est même décoré, lui, au feu de la Légion d'honneur. Et dès 1922, le journal est transféré à Ajaccio, financé par François Coty, qui est le milliardaire, et on sait qu'il arrose abondamment d'autres journaux aussi, hein, pas seulement que la Mouvre. Et dès 1922, on crée même, Thierry en parlait tout à l'heure, ou Partito Corso d'Azione, qui est le parti corse d'action, qui est un véritable, qui se situe dans le corsisme. Et le corsisme doit, dans un premier temps, redresser intellectuellement, économiquement, socialement et je dirais même politiquement la situation dans laquelle se trouve la Corse. Et très rapidement, 4 ans plus tard, on va passer à une autre forme d'action qui est ou parti tout court autonomiste. C'est le parti corse autonomiste. Alors là, véritablement, en reprenant en reprenant, et c'est là où c'est très intéressant, et c'est là où on voit un fil conducteur. On reprend la thématique de la nation, du peuple, de la langue, de l'histoire. On y rajoute une religion, la religion catholique, en fait. En fait, les ingrédients, tout ce qu'a déjà mis en place Santo Casanova, sont récupérés par l'amour durant l'entre-deux-guerres. Et l'on écrit très rapidement, en fait, mais quand je dis très rapidement, c'est dans les premiers numéros. En 1920, on parle déjà d'autonomie et on dit clairement que la Corse, ce n'est pas un département français comme un autre, mais c'est surtout une nation qui doit renaître. Et on va énumérer les différentes factions qu'il va falloir mettre en place pour que cette nation se relève, en fait, et renaisse.
À la fin du 19e siècle, avec Santo Casanova, on voit bien ce mouvement corsiste qui a un écho dans les années 1920 avec Petru Rocca qui, là, demande l'autonomie. Parce que Thierry Dominici, c'est vraiment toute une question que l'on peut apporter dans cette réflexion sur le nationalisme corse. Est-ce qu'il y a des demandes d'indépendance, de se séparer complètement de la France ?
Au niveau mouvriste, si vous voulez, au départ, bien sûr, on parle d'autonomie, comme l'a dit Jean-Paul, mais très vite, si vous voulez, le mouvement va changer. Certains vont se radicaliser, si je puis dire, en termes d'italianisation, parce qu'ils vont vers même soit un rattachement avec l'Italie, ou soit tout simplement se défaire de la France. Alors, le terme indépendance ou n'est pas employé, mais les termes qui sont plutôt employés, c'est retour à la nation, etc. Mais j'aimerais plutôt vous parler de la structuration, si ça vous dérange pas, de l'appareil, parce que c'est assez intéressant ce qu'a soulevé Jean-Paul. En fait, si vous voulez, lorsque j'ai travaillé sur la question des partis politiques nationalistes, donc j'étais amené déjà à les définir. Qu'est-ce qu'un parti nationaliste ? Donc en fait, finalement, grâce à mon directeur à l'époque de thèse, M. Daniel Louis Seyler, et M. Claude Olivès de la fac de Corse, on a pu imaginer quelque chose. Et donc on est parti du principe que nationalisme, c'est la nature. Donc c'est-à-dire que tous les partis nationalistes, c'est leur nature, ils demandent quelque chose qui a un rapport à l'appartenance nationale. Même la région, c'est nationalisme. Ce qui fait que les différents degrés de revendication que vous venez d'énumérer, c'est des degrés de nature. Et l'indépendantisme serait le degré le plus élevé. Au moment donc du PCA, mouvement d'action, là on n'a pas atteint ce degré. Au niveau du, on a atteint ce degré, pardon, d'indépendantisme. Par contre, par rapport aux autres mouvements européens, le PCA, donc Parti Corse d'Action, va passer à Parti Corse d'autonomie ou autonomiste. Pourquoi ? Ben tout simplement parce qu'autour de lui, sur le plan national et sur le plan européen, la plupart des partis revendiquent l'autonomie, la région. Et donc partant de là, il va structurer son discours sur ce terme-là. Enfin, j'aimerais aussi revenir sur un point. Comment les étudier ? Comme on vient de le faire jusqu'à présent, on voit qu'on est finalement, et je suis assez content de l'entendre, même si on le vulgarise, on est dans la grille finalement de Miroslav Rohr, qui est un historien tchèque qui avait essayé de comprendre la naissance des nationalismes dans les PECO. Et il avait proposé une lecture en trois phases. Des phases qui sont liées, bien sûr, à des époques précises. Et donc, à cette époque précise, qui est le monde naissant, qui est industriel et naissance des démocraties libérales, mais qu'est-ce qui apparaît ? Eh bien, il y a une phase A qui est la phase littéraire, intellectuelle, renaissance de la culture. Et on le voit avec la Corse, donc, c'est les différents journaux qu'on vient de nommer, qui essaient de tirer vers eux, finalement, un retour à la langue, à la poésie, parce que Santo Casanova explique qu'on peut passer de la poésie au politique. D'ailleurs, Jean-Paul a oublié de le dire, mais ce sont tous des journalistes, donc ils ont aussi le sens de la plume. Donc partant de là, à cette époque-là, cette phase A, au sens d'Aurore, a pu permettre, dès 1920, une phase B, c'est-à-dire la création de forces politiques, et notamment d'appareils. Le but de tout nationalisme, c'est d'atteindre la phase C, c'est-à-dire la phase de massification du nationalisme. Alors pour Miroslav Rohr, c'est quoi ? Mais c'est tout simplement lorsqu'on arrive à une banalisation du nationalisme, comme aujourd'hui en Corse, en 2024, c'est-à-dire où le nationalisme est partout, dans la vie de tous les jours, dans le quotidien des jeunes, des moins jeunes, qu'à la majorité politique, qui agit sur tout ce qui serait événementiel, et qui d'ailleurs, je serais tenté de vous dire, impose à France Culture une émission sur 4 jours. C'est ça le nationalisme, de la banalisation du nationalisme. Et donc aujourd'hui, on est dans une massification de ce phénomène. On ne doit pas avoir peur de ce phénomène. C'est tout simplement parce que ces forces partisanes ont atteint ce degré. Mais à l'époque du PCA, mais malheureusement pour eux, ou fort heureusement peut-être pour les insulaires, ils n'ont pas dépassé la construction de la phase B. Donc de cette grille de lecture que j'ai essayé de vous expliquer rapidement. Mais voilà, donc on est dans les balbutiements d'un parti nationaliste, qui d'ailleurs aujourd'hui revient, hein, certaines forces nationalitaires insulaires très à droite, apparues aujourd'hui sur l'échiquier politique, se revendiquent de Hamouvre. Mais au départ, si vous voulez, Hamouvre, c'est une construction de personnes hétéroclites qui n'ont pas tous la même obédience politique. Certains sont bonapartistes, d'autres sont surtout issus du monde de l'après-guerre, qui sont des anciens combattants. D'autres sont plutôt des radicaux, donc de gauche ou de droite. Et au final, c'est vrai qu'en termes de construction identitaire, le seul phénomène qui marche bien, si je puis dire, c'est la dénonciation. Donc c'est de montrer, si vous voulez, le côté méprisant qu'aurait, soi-disant, la nation à l'endroit de l'île. Et ils vont jouer même là-dessus en utilisant notamment un art à l'époque qui était fondamental, c'est-à-dire la caricature. L'utilisation donc de dessins pour dénoncer ces phénomènes.
L'importance de l'histoire comparée en partant des PECO, les pays d'Europe centrale et orientale, pour arriver en Corse, comprendre le mouvement nationalisme avec un parti qui existe, hein, le PCA, le parti tout corsou d'Azione, vous le diriez mille fois mieux que moi l'un et l'autre. Ce parti-là, on est dans l'entre-deux-guerres, Jean-Paul Pellegrinetti, il a un écho. C'est toujours le problème de l'effet loupe en histoire. Quand on regarde un phénomène, on a l'impression qu'il domine l'ensemble. C'est un parti puissant en Corse ?
Non, c'est un parti, en fait, ce n'est pas lui qui anime véritablement et fait la vie politique. La vie politique, elle est animée par les partis, je dirais, de droite et de gauche traditionnels, en fait, avec deux figures que tout le monde connaît, François Pietri d'un côté, et pour la droite insulaire, et Adolphe Landry, le père de la démographie française, pour la gauche, puis récupéré par son gendre César Camping, qui sera ministre notamment de la Marine et député de la Corse, en fait. Mais ce parti, cette mouvre, en fait, c'est ce parti, puisqu'il y a un parti et un journal, en fait, ils sont présents, ils dénoncent, hein, comme le disait Thierry, la mouvre est diffusé, on serait surpris de voir à quel point on la diffuse en dehors de la Corse. Évidemment, il y a énormément de Corses qui sont partis depuis la fin du 19e. Hein. Depuis la fin du 19e, c'était entre 2 et 3 000 départs par an, en fait. Donc on cible les Corses aussi de l'extérieur et on fait en sorte de tisser des liens et des réseaux aussi avec ces différents partis qui ont pu voir le jour, ça et là, en Bretagne ou dans d'autres régions. L'idée est de mettre en place différents cercles, en fait. Mais la Mouvre, je dirais, et le parti corse d'Azione, il n'a pas, ce n'est pas lui, évidemment, qui joue un grand rôle dans les élections qui ont lieu durant l'entre-deux-guerres. Mais il dénonce, hein, comme l'a dit Thierry aussi, on dénonce, et c'est là où c'est évidemment très intéressant, en fait, parce qu'on appelle progressivement, en fait, à cette autonomie, tout en dénonçant, on appelle un peu au séparatisme, et dans l'autonomie, en fait, ce que l'on lance déjà, c'est le gouvernement, on veut un gouvernement de Corse, gouverné par des Corses, où les Corses n'auraient plus à choisir, où on leur imposerait plus. Donc c'est la thématique de cette colonisation intérieure que l'on voit arriver progressivement, en fait. Et le tout, évidemment, comme on l'a vu, en fait, appuyé aussi, vous l'avez évoqué, par le fascisme italien qui voit d'un œil très intéressé la Corse. Et l'histoire montre que progressivement, en fait, la Mouvre va, une minorité, en fait, d'individus de la Mouvre va se rapprocher et va verser dans l'irrédentisme. Santu Casanova, qui est un des personnages importants dont nous parlions tout à l'heure, lui termine sa vie, sa carrière, mais sa vie dans les bras du Duce, à Livourne, quitte l'île en 1936, hein, face aux odeurs nauséabondes du Front populaire et donc de cette République de gauche, on va dire. Et seule une minorité, en fait, je dirais, bascule dans cet irrédentisme. Hein. Lors des procès en 46, il n'y a que 14 condamnations. Quand je dis il n'y a, c'est quand on compare qu'il y en a eu 7000 en Alsace et près de 3000 en Bretagne, en fait. Donc ça vous montre, si vous voulez, la manière dont certains ont pu dériver. Donc
c'est véritablement une minorité qui a versé dans cet irrédentisme.
Oui, minorité, ce qui veut dire qu'après la Seconde Guerre mondiale, Thierry Dominici, le mouvement est toujours là, c'est-à-dire que ce n'est pas un mouvement compromis. Comment se métamorphose, puisque c'est ce qui nous intéresse, les métamorphoses du nationalisme corse, comment se métamorphose ce mouvement dans les années 1950-1960?
Alors en fait, si on garde la grille de Miroslav Rohr, donc on peut dire qu'à partir de 1960 apparaît une deuxième famille politique, toujours basée sur la même question, c'est-à-dire la dénonciation de la situation économique, sociale, culturelle. Et donc ce mouvement-là qui va prendre corps, donc c'est, on va, pour aller vite, c'est le mouvement régionaliste. Donc il se revendique donc de la défense de la région, on est avant la 5e République, il y a plusieurs mouvements sur le plan national, et celui-ci en gros demande en gros plus de technique, plus de modernité, pour que en gros l'île vive mieux sa situation. Donc on est plutôt dans une revendication corse, mais plutôt, on va dire, économico-politique. On évite, en fait, tout ce qui est politique. On parle pas de peuple, on parle pas de langue, ou à peine, on parle pas encore moins de nation. Pourquoi? Peut-être parce qu'on est échaudé ou inquiet par rapport aux résultats de la Mouvre. C'est-à-dire que, il est vrai que la question de la Mouvre, en 1960, réapparaît avec le Réacquist, et donc finalement, cet héritage est un petit peu nauséabond, comme l'a dit mon collègue, mais dans l'autre sens. Donc, c'est-à-dire que ça, en gros, comme diraient certains jeunes aujourd'hui, ça craint un petit peu, quoi. Et donc, il faut trouver autre chose. Donc, l'autre chose, c'est la construction économico et sociale. Donc, on est dans les années 60. À partir de ce moment-là, apparaît véritablement dans la société insulaire ce qu'ils appellent le Réacquist, c'est-à-dire la réappropriation de la culture. Et je dis bien réappropriation, ça veut dire qu'il y a déjà eu appropriation. En d'autres termes, si vous voulez, ils bondissent directement dans la phase B, c'est-à-dire que la phase A est là, elle est reconstruite par le Réacquist, elle est, on va choisir tel et tel, champ populaire. Vous doutez comme moi que la Padiella n'est pas le champ unique, hein. Il y en a d'autres, mais on choisit par exemple la Padiella, on va choisir telle et telle littérature, bref, on va mettre en place la culture d'un nationalisme, donc on va mettre en place un nationalisme culturel. Et très vite, donc, ce nationalisme culturel va permettre une structuration et la construction de la phase B avec la naissance de partis régionalistes. Alors, certains, vous les connaissez parce qu'ils sont encore là aujourd'hui. C'est la filiation directe de l'ARC, notamment. Mais il y en a un très important à l'époque qui apparaît, c'est le FRC, le Front Régionaliste Corse. C'est le premier mouvement qui produit un manifeste qui, aujourd'hui, est encore utilisé, ne serait-ce que par les jeunes indépendantistes insulaires. C'est le manifeste qui s'intitule « Main basse sur une île ». Et là, vous avez toutes les données. C'est-à-dire que on ne dénonce plus, on montre comment l'île, finalement, est empêchée en termes d'évolution, et comment on pourra en sortir. Donc le FRC est un mouvement intellectuel qui a un poids important dans la société insulaire, mais qui n'a pas une réalité élective. C'est-à-dire qu'en gros, lui aussi, il naît à Paris, et c'est M. Charles Santon, il est l'avocat, il bénéficie, ce mouvement aussi, de la revue Les Temps Modernes, il s'exprime énormément dans la revue donc de Jean-Paul Sartre, Les Temps Modernes, dès 73, et donc ce mouvement finalement construit l'intellectualisme du mouvement, construit les idéologies du mouvement et les stratégies, mais ne peut intervenir. Pourquoi? Parce qu'il y a un autre parti qui se veut apolitique. C'est le parti, donc, l'ARC, donc, parti d'action régionaliste corse, qui deviendra le parti autonomiste corse, qui est donc le parti de monsieur Edmond Siméoni et monsieur Max Siméoni. Et ce parti, donc, finalement, va s'imposer dans le paysage politique.
Et c'est ça. Ce parti-là, justement, pour l'illustrer, archive de 1975.
L'ARC, l'action pour la renaissance de la Corse, est sans nul doute le mouvement autonomiste le plus puissant et le plus populaire de la Corse. Un mouvement composé de militants résolus et dont la jeunesse, la grande majorité, se déclare prête à ne reculer devant aucun moyen pour la renaissance de l'île. D'autres, plus extrémistes, ne cachent pas qu'il faudra sans doute aboutir à une révolution totale. Bref, une organisation solide qui, lors de son congrès qui s'est tenu à Corte la semaine dernière, a réuni plus de 8000 participants et près de 50 000 militants. Pour la première fois, on a entendu scander une formule qui, jusque-là, n'était qu'un graffiti tracé sur les murs par des mains anonymes, « I francesi fora, les Français dehors ». On ne peut pas être plus clair. Pourtant, le porte-parole de l'ARC, Edmond Siméon, 47 ans, médecin, est un partisan résolu de l'autonomie dans le cadre de la République.
Nous voulons tout simplement un statut d'autonomie interne au sein de la République française, ce qui exclut le séparatisme, puisque nous ne revendiquons ni les affaires étrangères ni la défense nationale. Par contre, dans tous les autres domaines, à savoir la formation des hommes, le développement économique et social, nous entendons avoir nos propres lois. Nous pensons que lentement, les problèmes viennent à maturation et que malheureusement, devant le refus systématique du dialogue, devant des promesses séculaires non tenues, on s'achemine lentement mais sûrement vers des actes regrettables. Pour notre part, nous ne dérogerons pas à nos responsabilités, nous les assumerons, quel que soit le prix à payer.
Des promesses séculaires non tenues, Edmond Simeoni, en 1975, Jean-Paul Pellegrinetti.
Et oui, ça reprend toute la thématique que nous voyons ce matin, en fait, parce que dans ces années 60, il y a un aspect très important, c'est la fin de la guerre d'Algérie, c'est la fin, je dirais, c'est toute la décolonisation au niveau de l'Empire français, et comme je l'avais souligné, à la fin du 19e, c'est une échappatoire à la misère, cet empire colonial qui se construit, en fait, et les Corses y ont participé massivement. Or, dans ces années 60, on a une nouvelle génération, ce sont des jeunes qui ont fait leurs études sur le continent, de jeunes lettrés, qui sont à même de comparer ce qu'est la vie sur le continent et l'état de l'île dans laquelle ils vivent, eux, et ils sont nés. Donc ils retournent au pays avec une volonté de faire bouger les choses. D'autant que dans ce pays, justement, en fait, délaissé, je rappelle que le général de Gaulle voulait y installer en 1960 les essais nucléaires, voyant que nous perdions le Sahara en Algérie, en fait, eh bien cette jeunesse, elle se sent colonisée, spoliée, parce qu'elle se sent dehors des circuits modernes de l'économie des marchés, parce que sont arrivés 17 500 rapatriés d'Algérie, qui eux vont bénéficier véritablement de conditions d'installation, qui eux étaient porteurs d'une certaine modernité tant attendue. Or, les Corses se retrouvent finalement spoliés de leurs terres, se retrouvent renvoyés aux périphéries et se sentent quelque part déracinés dans leur propre île, en fait, leur île natale, en fait. Et donc ce sentiment de spoliation, en fait, eh bien, il s'accentue avec justement ces attributions à des lots pour les rapatriés d'Algérie. Ils se sentent évidemment scandalisés par tout le scandale des vins, et vous évoquiez, nous étudions cette archive sonore d'Edmond Simeoni, le scandale des vins, l'occupation de la cave d'Épeille à Aléria en 1975. C'est quoi? C'est la fraude sociale avec des cohortes d'ouvriers maghrébins non déclarés. C'est une fraude à la production parce que on continue la chaptalisation à outrance en Corse durant cette période, alors qu'elle est interdite sur tout le territoire national, en fait. Et puis, une fraude à la fabrication du vin sans raisin, où on arrive avec de l'eau, du sucre, de l'acide sulfurique, de la glycérine et des lits de vin à vous fabriquer du vin estampillé vin de Corse, en fait. Eh bien, tout cela, en fait, eh bien, est dénoncé dans cette occupation. Une quinzaine de fusils de chasse, en fait, d'hommes, dénoncent cette situation et sont prêts à tout pour justement réclamer ce différent regard, que l'on s'occupe véritablement de la question corse et que la modernité arrive enfin et une bonne fois pour toutes dans l'île, en fait.
Thierry Domenici, c'est dans cette logique-là qu'on doit comprendre la naissance du FLNC en 1976. Et puis après, ce qui s'ensuit, c'est les attentats. On va dire que c'est toujours cette non-réponse à des attentes, et je reprends les mots d'Edmond Simeoni, séculaires.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, comme l'explique Jean-Paul, donc l'ARC donc mène sa première et dernière action, finalement, c'est sa première action en prise de cette fameuse cave à Aléria. Il y a beaucoup d'histoires là-dessus. Pierre Dautelonde, l'historien, serait le plus à même de la raconter parce qu'il a beaucoup travaillé là-dessus. Mais on sait toutes et tous, bon, en gros, ils étaient une vingtaine. Mais pourquoi ils sont allés à Aléria? Quel est l'intérêt d'aller à Aléria lorsque vous êtes un parti autonomiste qui revendique finalement l'élection et la non-violence? Mais tout simplement parce que la jeunesse a poussé l'ARC à le faire. Si on remonte l'histoire sur l'entrée du bâtiment de l'ARC, des jeunes ont inscrit Edmond, le fusil ou la canne à pêche. Ou canne à pêche ou le fusil, tu dois choisir. Et donc c'est à ce moment-là que l'ARC décide, et vous remarquerez, sans cagoule, avec tout le matériel aujourd'hui de modernité, avec des t-shirts estampillés ARC, donc floqués par eux-mêmes, etc. Donc toute une stratégie de communication avec une prise d'otage, donc cette prise de la cave. Et donc oui, malgré ce phénomène, la jeunesse estime que la lutte armée est la meilleure des réponses. D'ailleurs, il avait décidé un an avant, en 74, et donc partant de là, il existait donc déjà des groupes armés, des groupuscules nébulaires comme le Front de Libération de la Balagne, et d'autres plus importants comme Justice Paoline ou le Front Paysan Corse de Libération Nationale, qui lui se revendique plus du monde traditionnel. Donc ces étudiants, ces jeunes venant des universités du continental, inspiré par le maoïsme, mais aussi par la pensée ultra-droite. Certains se revendiquent aussi du parti Provo, le parti hollandais qui se lance dans tout ce qui est provocation, tag, peinture, ready-made, sitting, etc. Donc, sont très inspirés par ces mouvements-là. Et donc, ils décident, dans la nuit du 4 au 5 mai 1976, de mener une nuit bleue. Non, ils n'ont pas appelé comme ça à ce moment-là, mais de mener une nuit bleue, c'est-à-dire sur l'ensemble du territoire national, au même moment, à la même heure, une série d'actions, donc d'attentats, et donc c'est la naissance du Front de Libération Nationale de la Corse, qui lui se revendique donc carrément, si vous voulez, de Pascal Paoli, mais va s'imposer dans l'imaginaire social des Corses, mais aussi national, comme étant finalement un bandit social. C'est l'homme qui va devenir le ribello avec sa cagoule, donc il va devenir atemporel, et ce mouvement va investir donc finalement le seul lieu que le politique n'occupe pas, c'est-à-dire la forêt.
Effet de génération, effet d'héritage, c'est ce que nous attendions de vous, et merci vivement à tous les deux, Jean-Paul Pellegrinetti et Thierry Dominici, de nous avoir montré cette généalogie, en fait, des mouvements nationalistes corses, que l'on ne réduit pas simplement à une nuit bleue. Cette nuit bleue s'explique par cette très longue histoire. Merci vivement à tous les deux, La Corse et la République, ça c'est votre ouvrage, Jean-Paul Pellegrinetti, que vous avez coécrit avec Ange Rovere. Et pour nous, dans le cours de l'histoire, il est temps de retrouver Gérard Noiriel. C'est le pourquoi du comment.
Pourquoi la police parisienne n'a-t-elle pas pu empêcher la Révolution française ? Sous l'Ancien Régime, le pouvoir de police était exercé par les municipalités. Mais en 1667, la ville de Paris perdit cette prérogative car elle fut confiée à un officier du roi appelé lieutenant général de police. La mission de ce nouvel organisme était d'assurer le repos du public et des particuliers, purger la ville de ce qui peut causer les désordres, procurer l'abondance et faire vivre chacun selon sa condition et son devoir. Autrement dit, la police de cette époque n'avait pas qu'une mission répressive. Elle exerçait des fonctions à la fois économiques, sociales, sanitaires et sécuritaires. Les recherches historiques les plus récentes sur ce sujet ont montré l'extrême complexité des activités policières dans une ville qui connut au XVIIIe siècle une formidable croissance, passant de 500 000 à 700 000 habitants et animée par un mouvement perpétuel d'arrivée et de départ. Paris était aussi une ville marquée par des écarts sociaux colossaux. La pauvreté qui régnait dans les quartiers déshérités et la rupture des liens communautaires qu'amplifiaient les mouvements migratoires explique les aspects multiformes de la délinquance. L'état endémique d'une violence qui pouvait, lorsque les conditions étaient réunies, prendre des formes collectives, était perçu comme une menace permanente par le pouvoir monarchique. Parmi les exemples d'émeutes collectives, la plus connue est celle qui éclata en 1750. Une rumeur qui s'était propagée comme une traînée de poudre accusait la police d'enlever les enfants pour les déporter en Louisiane. Les autorités parvinrent finalement à désamorcer le conflit, mais cet événement joua un grand rôle dans l'apprentissage d'un savoir-faire policier visant à négocier la paix urbaine avec le peuple parisien. En s'appuyant sur les cadres sociaux traditionnels de la société d'Ancien Régime et en rendant des services à la population fragile, la police parvint souvent à incarner la figure protectrice du roi, ce qui lui permit de surmonter les grandes crises sociales jusqu'en 1789. Cette stratégie fut mise en œuvre grâce au développement d'une véritable administration policière, servie par des agents qui devinrent progressivement des professionnels du maintien de l'ordre. L'espionnage généralisé était alors un outil de connaissance indispensable, car il permettait de prévenir efficacement la délinquance ou les désordres. tout en bas de la hiérarchie policière se trouvaient ceux qu'on appelait les mouches. Ce terme désignait un monde disparate, depuis les observateurs des cercles de sociabilité jusqu'aux basses mouches introduites dans les milieux criminels, en passant par les domestiques et autres auxiliaires naturels de la police. Malgré cette rationalisation de l'activité policière, ceux qui la dirigeaient étaient trop emmurés dans les normes et les préjugés de la société féodale pour comprendre les revendications nouvelles qui se développèrent dans la seconde moitié du XVIIIe siècle concernant la liberté individuelle et l'égalité des droits. C'est cette incompréhension qui précipita en 1789 la rupture du compromis entre la police et la population parisienne.
Merci Gérard Noiriel. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Lily Cornaer, Jeanne Delecroix, Anne Toscane-Viudès, Jeanne Copet, Mathieu Copalma, Yoann Guizou et Tom Hundenstock. Émission à retrouver à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France.